Parmi les nombreux contes pour enfants, il en est certains qui se sont inspirés de récits qu'on trouve dans les Écritures saintes. Or, dans l'Ancien Testament, on lit la curieuse histoire d'un gros poisson qui aurait avalé un dénommé Jonas, jeté à l'eau. Prophète de son état, son livre est le seul parmi les écrits prophétiques à se présenter comme un récit. Il ne contient aucun oracle, mais une histoire captivante et tout à fait extraordinaire, au point où les théologiens d'obédience libérale le considèrent purement et simplement comme un roman fictif. Curieusement, ces mêmes commentateurs acceptent l'existence du prophète Abdias, dont nous ne savons strictement rien et dont le nom n'apparaît nulle part. Pourquoi rejettent-ils donc le livre de Jonas? Tout simplement à cause des nombreuses interventions divines et des miracles qu'il contient. Dans l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, il est écrit qu'un certain Jéroboam, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie et qu'il régna 41 ans. Or, personne n'a jamais contesté l'existence de Jéroboam, ni qu'il fut roi du royaume des 10 tribus d'Israël Nord et qu'il régna 41 ans. C'est de l'histoire. Or, plus loin apparaît Jonas. On lit que ce Jéroboam fit ce que l'Éternel considère comme mal et aussi que c'est lui qui reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël depuis la ville de Lebo Hamath jusqu'à la mer Morte et qu'ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittaï de Gath et Fer. Jéroboam a été un personnage historique. Israël était une nation du Proche-Orient. Lebo Hamath et Gath et Fer étaient de véritables villes. Tout ça pour dire qu'il est tout à fait improbable que Jonas ait été le fruit de l'imagination d'un auteur de livres pour enfants. C'est un personnage qui a vécu, qui a exercé un ministère prophétique. Ceux qui rejettent l'historicité de Jonas mettent aussi en doute la crédibilité de Jésus-Christ, puisqu'ils croyaient à toute l'histoire de Jonas. Je lis ce passage de l'Évangile. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament d'un signe miraculeux, un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédiction, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » Fin de citation. Jésus n'a jamais douté une minute que Jonas avait bien existé, qu'il s'était retrouvé dans le ventre d'un grand poisson, qu'il s'était rendu à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, pour annoncer un jugement, et que ses habitants s'étaient repentis. Il a d'ailleurs utilisé cette histoire pour prophétiser sa mort et sa résurrection. Quant à Jonas, il a dû disparaître de la surface de la terre, dans le ventre d'un poisson, avant d'être dégurgité sur la berge. Cet événement fut pour lui comme une mort et un retour à la vie. Il a fallu qu'il le subisse afin de le préparer à prêcher la repentance aux Ninivites. Cette expérience de Jonas n'est pas sans rappeler les paroles de Jésus qui a dit « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Depuis sa résurrection et par l'intermédiaire de l'Église, qui est son corps, Jésus va de par le monde prêcher la repentance et faire de toutes les nations des disciples. Le nom Jonas signifie « colombe ». Cet homme était originaire d'une ville de Galilée à 5 kilomètres au nord-est de Nazareth, dans le territoire de la tribu de Zabulon. Dieu lui ordonna d'aller annoncer un jugement contre Ninive, capitale de l'empire assyrien. Cette ville était située sur le fleuve Tigre, à environ 900 kilomètres de Samarie, capitale d'Israël Nord. Tout comme Babylone, Ninive était protégée par une muraille extérieure et une autre intérieure. Cette dernière faisait plus de 15 mètres de large et 30 mètres de haut, ce qui rendait la ville pratiquement imprenable. La plupart des commentateurs non évangéliques ne croient pas que Jonas soit l'auteur du livre qui porte son nom pour plusieurs raisons. D'abord, il ne prétend pas l'être, mais ça ne prouve rien. Ensuite, ce livre est écrit à la troisième personne, mais ici encore, cela n'a rien d'extraordinaire. En effet, le commentaire sur la guerre des Gaules de Jules César, ou Anabase, qui est l'œuvre la plus célèbre de l'athénien philosophe Xénophon, sont des ouvrages antiques dont les auteurs n'ont jamais été mis en doute, et pourtant ils sont écrits à la troisième personne. L'historien juif Flavius Joseph et Frédéric II de Prusse ont eux aussi écrit à la troisième personne. Le prophète Amos raconte comment il a été persécuté par un prêtre païen, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre que lui. Et il n'est pas le seul. Les prophètes Ésaïe, Jérémie, Daniel et Agé écrivent aussi une partie de leur prophétie à la troisième personne. De plus, la franchise avec laquelle ce livre a été écrit montre qu'il n'a pu l'être que par Jonas lui-même. Il est invraisemblable qu'un écrivain juif respectueux du ministère prophétique en Israël ait pu mettre en scène le personnage historique de Jonas dans un récit fictif qui non seulement n'est pas très flatteur de sa personne, mais lui donne le rôle de vilain. Un tel ouvrage ferait preuve d'un grand manque de respect envers un authentique prophète de l'Éternel. Étant donné qu'il a un très mauvais rôle de bigot, égocentrique, boudeur, désobéissant à Dieu, seul Jonas a pu ainsi exposer ses travers. Il raconte humblement et sans émotion exactement ce qui s'est passé. Il est impartial, n'essaye pas d'arrondir les angles et n'explique ni excuse aucune de ses faiblesses. Tout porte donc à croire qu'il voulait qu'on prenne son livre comme un récit véridique. Son histoire peut être vue comme un acte de repentance. Étant sincèrement affligé par l'attitude haineuse qu'il a eue envers les habitants de Ninive, qu'il voulait voir détruit, et par son obstination à tenir tête à son Dieu, il ne veut pas que quelqu'un d'autre reproduise ses fautes. Il révèle ses préjugés pour instruire ceux qui, comme lui, seraient tentés par un nationalisme militant. Pourtant, bien que bigot, égotiste et capricieux, Jonas est un personnage de haute stature, tout comme l'apôtre Pierre, auquel il ressemble beaucoup. En effet, tous deux partent au quart de tour sans trop réfléchir, mais sont également courageux, francs et pleins de zèle. D'un autre côté, il existe aussi des similitudes entre Jonas et l'apôtre Paul. Tous deux furent envoyés auprès de peuples païens et témoignèrent de leur foi aux matelots du navire sur lequel ils naviguaient. Et c'est grâce à eux que ces mêmes matelots eurent la vie sauve. Et tous deux finirent leur voyage dans une mer en furie. Comme je l'ai déjà dit, Jonas fut prophète dans le royaume des 10 tribus du Nord à l'époque du roi Jéroboam II. Jonas est l'un des 4 prophètes dont les noms sont cités par Jésus et le seul qui tenta de s'enfuir afin de ne pas accomplir la mission que l'Éternel lui avait confiée. Il existe un parallèle entre Jonas et ses prédécesseurs Élie et Élisée, car tous trois exercèrent leur ministère dans le royaume d'Israël Nord, dont une partie en terre païenne. De plus, le livre de Jonas se présente sous la même forme que les récits des ministères des prophètes Élie et Élisée, récits dans lesquels on trouve aussi beaucoup de miracles extraordinaires. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, avant l'époque de Jonas, la Syrie avait rogné une partie du territoire du royaume israélite des 10 tribus du Nord et considérablement réduit sa puissance militaire. Il faut dire que ce malheur n'était pas arrivé par hasard, car la faute en incombait au roi Joachaz, fils et successeur de Jéhu sur le trône d'Israël Nord. Un texte dit « Il fit ce que l'Éternel considère comme mal » et adopta la conduite coupable de Jéroboam Ier, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël dans le péché. Il ne se détourna pas de cette mauvaise voie. Alors l'Éternel se mit en colère contre Israël. Il livra ses habitants pendant toute cette période au pouvoir de Hazaël, roi de Syrie, et de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Mais Joachaz supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel l'exauça car il avait vu comment le roi de Syrie opprimait Israël. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils purent de nouveau vivre tranquilles chez eux comme autrefois. Fin de citation. Ce libérateur désigne probablement les Assyriens qui étaient une puissance montante. Leur roi attaqua les Syriens, ce qui les obligea à quitter le royaume d'Israël pour regagner leur pays afin de le défendre. Toutefois, la récupération des villes prises par les Syriens n'eut lieu que pendant le règne de Joas, fils et successeur de Joachaz. Plus tard, les Assyriens menaçants connurent une éclipse de puissance due à plusieurs phénomènes, dont une famine, suivi quelques années plus tard par la rébellion de plusieurs grandes villes contre leur autorité. Ce fut une aubaine pour Jéroboam II, roi d'Israël Nord, qui profita de cette faiblesse temporaire des Assyriens pour rétablir les frontières d'Israël à peu près comme elles étaient sous les règnes de David et Salomon. Étant donné que le prophète Jonas avait prédit ces reconquêtes, il est possible que ce soit ces oracles qui aient encouragé Jéroboam II à chasser tous les Syriens de son pays. Les Assyriens demeuraient cependant la grande menace pour tous les petits royaumes du Proche-Orient et constituaient le pire ennemi d'Israël. En outre, comme la vie religieuse des Israélites avait dégénéré pour atteindre le niveau d'une idolâtrie de bas étage, dès le règne de Jéroboam II, l'Éternel envoya les prophètes Osée et Amos pour avertir le peuple que s'il ne se repentait pas, il serait sévèrement puni aux mains d'une nation venant de l'Est. Amos précisa que les Israélites seraient déportés au-delà de Damas, ce qui ne pouvait être compris que comme une allusion à l'empire assyrien. Quant à Osée, il nomma l'Assyrie comme étant la puissance qui ruinerait Israël Nord. C'est ce qui arriva quand le roi Sargon II emmena le peuple en captivité. Pourtant, c'est dans Ninive, capitale de ce monstre féroce, que l'Éternel envoie Jonas pour y dénoncer le mal qui s'y commet et proclamer un message de jugement afin d'exhorter les Assyriens à se repentir. Il lui dit « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Juste avant que Jonas n'arrive dans la ville, il y avait eu deux épidémies qui avaient fait beaucoup de victimes et une éclipse solaire. Or, ces événements étaient considérés comme de mauvais augure. des signes de la colère divine, ce qui peut aider à comprendre pourquoi les habitants de Ninive acceptèrent l'avertissement de Jonas. Sa prédication se limite à une seule phrase qui est « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive ». Mais avant que Jonas n'accepte sa mission, le livre raconte comment ce serviteur de l'Éternel se rebelle et s'enfuit par la mer dans la direction opposée à celle où il aurait dû aller. Mais Dieu sait rattraper son prophète et le remettre sur les rails en le renvoyant à sa mission première. Jonas finit donc par aller à Ninive pour y annoncer le jugement de Dieu et, à l'écoute de sa prédication, les habitants de la ville décident de se repentir en changeant de comportement. L'Éternel renonce alors à l'exécution de la sentence qu'il avait prononcée aux grandes dames de Jonas. Furieux et déprimé, le prophète demande à mourir et dévoile les raisons de sa rébellion contre Dieu. Connaissant l'amour et la bienveillance de l'Éternel, il ne voulait pas offrir une possibilité de salut aux Assyriens. Dieu tente alors de raisonner son prophète en l'amenant à réfléchir à partir d'une leçon de science naturelle. La tradition judéo-chrétienne considère le livre de Jonas comme un récit historique rédigé au 8e siècle par Jonas lui-même. Pourtant, certains voient dans ce livre une allégorie où le prophète représente Israël et le célèbre poisson qu'il a englouti serait l'exil de Juda à Babylone. Mais ce point de vue ne tient pas parce que le poisson n'y est pour rien dans cette histoire. Il ne faisait que passer et n'est pas un instrument de jugement dans le livre. Au contraire, l'Éternel l'utilise pour sauver son prophète de la noyade. Bien que les textes sacrés contiennent beaucoup d'allégories, de fables et de paraboles, aucune n'est aussi longue et détaillée que l'histoire de Jonas. De plus, elles sont toujours insérées dans un contexte qui montre bien qu'on a affaire à de tels genres littéraires qui précisent en quelle occasion elles ont été prononcées, par qui, pour qui, dans quelles circonstances et dans quel but. Ce qui fournit la clé pour en comprendre le sens. Mais nous n'avons rien de tout cela dans le livre de Jonas. Il débute comme un récit historique et se poursuit comme tel jusqu'à la fin. De plus, cette histoire met en scène Jonas, un personnage qui a existé et qui a exercé un ministère à l'époque de Jéroboam II, roi d'Israël Nord. Les théologiens d'obédience libérale ont beaucoup critiqué l'historicité du récit de Jonas à cause du grand nombre de miracles qui y sont mentionnés et le caractère invraisemblable de plusieurs éléments comme la taille de la capitale Ninive, le mouvement spontané de repentance de ses habitants, du plus grand au plus petit à la simple proclamation d'un étranger, et surtout le fait que Jonas ait été avalé en Méditerranée par un grand poisson, qu'il a survécu dans son ventre pendant 3 jours sans y être digéré et qu'il a ensuite été rejeté sur le rivage. Cependant, ces arguments contre l'historicité du livre ne sont pas convaincants, car tous les faits jugés impossibles sont en réalité très plausibles. On connaît des cas de personnes retrouvées vivantes quelques heures après avoir été avalées par un cachalot capturé ensuite par des pêcheurs. Il faut en effet savoir qu'il n'est jamais question de baleine dans le livre de Jonas, mais d'un grand poisson sans autre précision. Dans le cas de Jonas, il a fallu qu'il y ait un miracle, mais c'est bien là ce que l'auteur veut que l'on comprenne. Une autre objection concernant la véracité du livre de Jonas concerne la dimension de Ninive. Il est vrai que d'un bout à l'autre, elle ne faisait que 3 kilomètres de diamètre, ce qu'on peut parcourir en une demi-journée, tout en s'arrêtant ici et là pour y annoncer le jugement de Dieu. Cependant, Jonas devait probablement aussi annoncer son message aux villes voisines. Le livre de la Genèse en mentionne 3. La prière du prophète alors qu'il se trouve dans le ventre du grand poisson se compose en grande partie de citations de divers psaumes. Ce n'est pas une intercession où Jonas demanderait à Dieu de le sauver de la mort, mais une action de grâce pour la délivrance qu'il a expérimentée, et il espère bien que l'Éternel ira jusqu'au bout de cette opération de sauvetage, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il est dans le ventre du poisson, il fait référence à ce qu'il a vécu avant d'être avalé. Tandis qu'il coulait à pic au fond de la mer et qu'il était sur le point de se noyer, il a prié l'Éternel de le sauver. C'est alors que le poisson qui passait par là a reçu l'ordre de la part de son Créateur d'aller récupérer Jonas pour le mettre en lieu sûr dans son ventre. La prière de Jonas diffère du reste du livre par son vocabulaire et son style. Et c'est là une autre raison qui est utilisée pour contester l'authenticité du livre. Mais ces différences s'expliquent à la fois par le genre différent du texte, c'est une prière et non pas un récit, et par le fait qu'elle est construite à partir de citations. Enfin, on allègue également que l'attitude envers Dieu manifestée par Jonas dans cette prière est à l'opposé de celle qu'il adopte dans le reste du livre. Mais ce raisonnement sous-estime la complexité humaine en général et celle du prophète en particulier. Bien que Jonas ait lui-même demandé à être jeté dans une mer en furie où il n'avait pas la moindre chance de survie, il ne voulait pas vraiment mourir. Alors qu'il est réduit à la dernière extrémité, il appelle Dieu à son secours. Mais il ne pouvait espérer une réponse que s'il changeait d'attitude. Effectivement, il a opéré un virement puisqu'il a finalement accepté d'accomplir la mission que l'Éternel lui avait confiée, se rendre à Ninive et annoncer le jugement de Dieu. Mais comme les Assyriens étaient les ennemis de son peuple, c'est l'âme mortifiée qu'il a obéi, car, comme il le dit lui-même, « Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. »